Je vais vous lire le texte d'appel qui a été mis dans les journaux pour aujourd'hui. Donc c'est appel de soutien au rassemblement du 4 novembre à Sainte-Afrique. Depuis quelques années, nombreux sont ceux et celles qui ont décidé de vivre sur ce territoire. Certains ont fait le choix de s'installer ici, apportant la richesse de leur diversité. D'autres sont revenus au pays, et d'autres encore ont décidé de ne pas quitter les terres qu'ils ont vues naître. Ce qui fait l'attrait de nos contrées, c'est sans doute à la fois la diversité des paysages, l'existence d'une vie sociale intacte, des manières de vivre qui s'opposent au modèle consumériste prévalant en bien des lieux. Et pour tous ceux qui ont fait le choix de vivre ici, la qualité de vie est plus déterminante que leur carriérisme, l'ambition individuelle ou l'appât du gain. Les élus qui veulent transformer cet Eldorado de simplicité en vaste zone industrielle, en favorisant l'implantation d'un transfo à Saint-Victor et Melvieu, ou en acceptant et en soutenant l'implantation de nouveaux parcs éoliens, ne voient pas le champ des possibles qui est en train d'émerger. Des jeunes et des moins jeunes s'installent, paysans, artisans, soignants, etc. Des projets intégrant de nouvelles données environnementales produisent des biens et des services pour le bien-être de la communauté locale. Une vie associative s'est développée, foisonnante et créatrice de liens. Des jeunes, souvent diplômés, préfèrent vivre ici avec peu de revenus, mais en créant leurs propres projets dans l'espace qu'ils ont choisi pour que vivent et s'épanouissent leurs enfants. Ce mouvement fait de nos territoires des lieux d'expérimentation uniques pour développer une société débarrassée des défauts qui nous ont conduits à l'état de catastrophe dans lequel les sociétés humaines se trouvent actuellement. C'est pour préserver et continuer à développer cette dynamique qu'il faut s'opposer aujourd'hui à l'industrialisation coloniale de nos espaces à travers le projet de transformateur et des éoliennes qui l'accompagnent dans son sillage. Tout le mois de novembre, soyons nombreux à nous retrouver sur le plateau, là-haut à la Massade ou dans le village. Bonne journée. Alors, un deuxième texte, c'est la motion du collectif CO2712, qui est le rassemblement des associations contre les éoliennes en Aveyron. Nous, les 27 associations composant le collectif CO2712 Environnement, réunies en Assemblée Générale ce 28 octobre 2017 à Saint-Laurent-de-l'Évezou, demandons instantanément et solennellement au pouvoir public et à l'opérateur RTE de renoncer au projet de méga-transformateur de Saint-Victor et Melvieu, ainsi qu'aux transformateurs adjacents associés. Nos territoires ruraux refusent d'être industrialisés et d'être assujettis à la spéculation financière des opérateurs privés de l'énergie. Nous ne voulons pas voir nos paysages défigurés et dénaturés. Nous ne voulons pas que les habitants de nos territoires ruraux subissent des nuisances inacceptables pour leur santé et pour celle de leurs proches. Nous méritons mieux qu'une multiplication effrénée des parcs éoliens, s'appuyant sur une multiplication des transformateurs de toute taille et puissance, et réciproquement. Nous entendons préserver l'attractivité de nos territoires. Cela requiert une protection active du patrimoine paysager, entretenu par nos agriculteurs. Une protection du patrimoine bâti. Une protection effective de la biodiversité exceptionnelle de nos territoires. Et, plus généralement, le respect d'une qualité de vie que nous avons choisie et à laquelle, sans justification technique ni économique, ces projets portent atteinte. Voté à l'unanimité des participants le 28 octobre.
Bonjour à tous. Enfumage. Tout ça, c'est de l'enfumage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le sénateur d'Indre-et-Loire, M. Germain, qui avait tout compris. Nous ne sommes pas, pour la plupart des associations, des militants. Nous sommes simplement à la recherche de la vérité dans tout ce business et de la cohérence. On nous dit « sauver la planète », c'est du jamais vu. On vient dans les campagnes, on dit aux gens « sauver la planète ». Quand il y a des avions qui décollent toutes les secondes, on nous dit à nous sauver la planète. Et pour cela, on va détruire tout un territoire pour sauver la planète. C'est une notion en fumage. On ne sait pas qui est responsable, on ne sait pas qui maîtrise. Mais il faut sauver la planète. Ce sont des slogans comme ça. Nous ne voulons pas de transformateur à Saint-Victor. À l'entrée du village, il est déjà, ce secteur est déjà bien loti. Ce n'est pas trop détruit, bien qu'il y ait beaucoup de lignes à très haute tension. Mais maintenant, ce sera devant le village. C'est monstrueux, c'est invivable pour les gens. Ils passeront devant tout cet ensemble tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, nous disons le respect des gens, il faut le mettre en pratique. Il ne faut pas le dire, il faut le mettre en pratique. Nous avons le bilan de RTE que nous suivons chaque année. Dans ce bilan, nous avons bien vu que ce transformateur, depuis 2009, est indiqué pour recueillir les énergies locales, localement produites, éoliennes et photovoltaïques. C'est bien écrit, localement produites. Ça montre, s'il y a le transformateur, qu'il faudra de l'éolien et du photovoltaïque volcanique autour. Nous déplorons, nous accusons le manque de vérité dans les motivations de RTE. C'est confus, il change, les années passent et nous avons des contre-indications, le tout et son contraire. RTE n'est pas maître du territoire. Saint-Victor est sacrifié pour une politique européenne confuse qui sera de plus en plus gérée par des grands groupes financiers, c'est-à-dire que lorsque l'engrenage sera, le maillage sera effectué, plus personne ne pourra rien faire. Il y aura donc des gens qui pousseront des manettes à l'Europe. Les États n'y seront plus. Ils n'y sont déjà presque plus. Voilà. Contre-vérité, la sécurité. La sécurité, on n'est pas dupe, on le sait. C'est un mot en fumage. C'est-à-dire que on peut dire sécurité et tout le monde baisse la tête en se sentant coupable. Donc la sécurité, qui fait quelle sécurité? Voilà. Personne ne le sait. On a maintenant la chance, si je peux dire, d'avoir des bilans. On a des bilans, on sait que en France, qui était un pays peu pollueur dans ses émissions de gaz à effet de serre, les émissions ont augmenté. On sait que nous avons dépensé 71 milliards en France pour faire de l'éolien, du photovoltaïque et d'autres, bien entendu, mais essentiellement. 71 milliards en 6 ans. 10 autres milliards vont tomber dans l'escarcelle en 2018 au plus tard. Donc, avec cet argent-là, on pourrait espérer avoir des résultats intéressants. Donc, tout ça pourquoi? Pour le résultat, nos émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 20%. Toutes ces énergies devaient être concurrentielles et faire baisser les prix. Les prix ont augmenté de 21% en France. Donc, tous ces milliards, tout ça pour ça. L'éolien n'est pas inéluctable. Nous voyons partout des régions qui se défendent, qui disent non, notamment en Occitanie, le Gers, le Lot, la Haute-Garonne, on dit non. Et nous, pourquoi nous avons tout? C'est une question. Question. Est-ce la mission du parc des Grands Causses de produire de l'électricité industrielle pour vendre?
Non.
Donc, le parc, nous demandons des comptes au parc. Nous demandons des comptes au parc. À l'heure actuelle, dans le parc, nous consommons 550 gigawatt-heure d'électricité et nous en produisons 750. Donc, dans le parc, nous sommes très clean. Nous produisons plus que ce que nous consommons. Alors, ça suffit, la folie où l'on nous pousse. Et qui nous pousse? C'est à déterminer. Conclusion. Nous sommes dans un gaspillage effréné, les citoyens. Nous avons notre mot à dire. Et nous voyons bien que la situation n'est pas maîtrisée. Toutes les éoliennes actuellement accordées ont été accordées dans l'anarchie. Cela s'est dit à plusieurs reprises, notamment par le préfet M. Bouvet, par les associations bien entendu. Donc nous en sommes à un stade où les éoliennes en place sont dans l'anarchie, et la corruption peut-être, voilà, même sûrement, Et dans ce contexte anarchique, on veut nous en rajouter. Ce qui veut dire qu'au lieu de corriger l'anarchie, nos élus se sont penchés à faire toujours plus. Toujours plus à partir de l'anarchie. Ça conduit à quoi ? À l'anarchie, toujours plus. Voilà. Et maintenant, je vais quand même vous lire avant de vous quitter. En d'autres termes, écoutez bien, en d'autres termes, les éoliennes ne remplaceront pas le nucléaire. Nous massacrons le visage de la France sans aucun effet sur le parc électronucléaire français, signé Nicolas Hulot.
Dynamite !
Bonjour, Carole Joly pour l'association Plateau Survolté de Saint-Victor-et-Melvieux. Alors, je vais dire un petit mot par rapport à l'agriculture. Il faut savoir que dès le début, en 2010, les agriculteurs ont été contactés. On leur a proposé de leur racheter leurs terres. Ils ont dit non. Ça a toujours été non, ça depuis le début, bien avant l'enquête publique. Dès le tout début, après la première réunion de concertation, donc lors de la deuxième réunion de concertation, ils ont choisi Saint-Victor, l'État, en toute connaissance de cause. Ils savaient que les agriculteurs étaient contre. Bon, première chose. Deuxièmement, je vais dire quelque chose par rapport à la santé. On vit au quotidien, on passe et repasse, et on vit dans une sorte de brume électrique, de brume de champ électromagnétique à Saint-Victor et Melvieux. Il y a 14 lignes, plus déjà un transformateur. Maintenant, on est étonné parce qu'on refuse un deuxième transformateur. On devrait accepter parce que, soi-disant, on est habitué. Ça, c'est les mots qui ont été dits par l'ancien maire de Saint-Victor et le député, alors député Alain Marc, qui est maintenant sénateur. Les gens sont habitués. Non, on n'est pas habitués du tout. Hein. Ça nous navre toujours de voir ces lignes au quotidien. Donc, maintenant, on dit stop. Et franchement, on se demande si l'État mesure bien ce qu'il fait en voulant nous agrandir l'infrastructure électrique sur la commune de Saint-Victor. Le transformateur va permettre plus de transport sur les lignes de 125 000 qui traversent la commune. Ça veut dire un champ électromagnétique plus intense. Donc, pour ces raisons aussi, nous refusons le transformateur. Et puis, dernier point, notre association Plateau Survolté n'ira pas faire des petites remarques ni des petits accommodements sur le registre du commissaire enquêteur. Nous n'irons pas voir non plus le commissaire enquêteur pour discuter avec lui de tel ou petit point. On sait qu'RTE a réponse à tout. Tout ce qu'on dira sera automatiquement argumenté dans un sens ou dans l'autre par RTE. Donc, toutes nos remarques, nous les ferons devant le tribunal. C'est tout, point à la ligne. Voilà.
Nicolas Roy, ami de Saint-Cernin, résistant du Pont-du-Rec. Sur Bourriège, nous sommes dans une bataille qui dure maintenant depuis plusieurs mois contre une installation éolienne. Si le transformateur contre lequel vous vous battez est installé, vous aurez de toute façon à ce moment-là, dans la logique administrative, il y aura nécessité de construire tout autour des champs d'éoliennes partout. La logique administrative, c'est pas votre logique à vous et à moi. Je vais vous raconter une petite histoire pour tenter de vous l'illustrer. Depuis le mois de juin, comme nous contestons depuis 10 ans les accès aux sites éoliens pour la construction et tout ça, les promoteurs ont toujours affirmé au tribunal, il n'y a aucun problème, il y a un accès facile, aisé, tous les propriétaires concernés sont consentants, il n'y a pas de problème. On se retrouve aujourd'hui, on a dû créer un nouveau chemin pour remplacer le chemin communal qui devait être pris, sous prétexte d'un nouveau permis de construire modificatif. Et quant à la route départementale d'accès, depuis le mois de juin, les citoyens que nous sommes, nous postons aux abords de cette route sur les terrains privés des riverains et empêchons les camions de passer. Nous avons même, dans cette optique, installé des poteaux métalliques aux abords d'un pont, mesurant 4,90 m de large. Et cela n'a pas plu à nos opposants, le constructeur d'éoliennes. En effet, ceux-ci ont besoin de 5 mètres pour passer. Les piquets sont chez nous, des propriétés privées. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve au tribunal, poursuivi pour des millions de dollars, d'euros, excusez-moi, je suis québécois, des fois, ça m'échappe, hein, pour des millions d'euros, pourquoi? Abus de propriété privée. Un magnifique concept. Hein? Nous abusons de notre propriété privée pour empêcher le promoteur éolien d'accéder et de construire son champ d'éoliennes. Et ils ont gagné. Pas plus tard que la semaine dernière. Nous en sommes déconfits, mais complètement. Comment la justice peut, dans une logique complètement incohérente, donner à ses promoteurs tous les outils dont ils ont besoin, et cela contre la justice, contre le bon sens. Qu'ils commencent à faire attention parce que la colère monte quand même. La colère monte, et si ça monte trop haut, ça déborde toujours. Merci.
Moi, je vais vous proposer de revenir un petit peu sur l'histoire de la Massade et qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a construit cette cabane sur les hauteurs de Saint-Victor, donc c'était en 2015. Depuis 2015, la Massade se dresse fièrement au cœur des terres convoitées par RTE, sur les hauteurs de Saint-Victor. Depuis 2015, nous n'avons de cesse de dénoncer ce projet inutile et nuisible, tant pour les habitants du sud d'Aveyron que pour ceux des territoires proches. Depuis 2015, nous dénonçons la farce de la transition écologique, qui ne constitue qu'en une accumulation des sources de production d'énergie. Depuis 2015, nous avons démontré l'ironie de leur croissance verte, qui s'appuie sur des crédits carbone pour justifier toutes les pollutions engendrées par le système capitaliste. Depuis 2015, nous avons sillonné la France et l'Europe pour expliquer notre lutte et ses enjeux. Depuis 2015, nous avons manifesté par centaines pour dire notre opposition aux transformateurs et aux mille éoliennes qui l'accompagnent. Depuis 2015, nous avons mis en place des espaces de pensée et des stratégies communes, approfondies à l'occasion de chaque édition de la Fête du Vent. Depuis 2015, nous avons dansé, chanté, joué pour célébrer notre victoire prochaine. Depuis 2015, nous avons bâti le hameau de la Massade, rempart contre les aménageurs de toutes sortes. Bref, depuis 2015, nous avons construit ensemble cette lutte pour défendre le territoire que nous aimons et ce monde plus juste dont nous rêvons. Nous n'avons pas cédé à la répression des gendarmes de l'État, ni au lobbying des promoteurs éoliens, et encore moins aux cajoleries de RTE. Nous ne voulons pas de ce projet. Nous ne voulons pas du transfo et des éoliennes industrielles. Nous voulons préserver nos terres agricoles, nos liens toujours plus forts et nos manières de vivre. Nous ne voulons pas du transfo et de son monde. Aujourd'hui, en ce mois de novembre 2017, RTE a choisi de passer une nouvelle étape, celle de l'enquête publique. Nous ne sommes pas dupes de cette mascarade démocratique. Nous ne sommes pas dupes d'une consultation dont la vie est décidée depuis 2009. Nous ne sommes pas dupes que cette enquête constitue la dernière étape avant les expropriations, qu'il s'agit de la première toupie de bétonnière de RTE. Voilà pourquoi, dès aujourd'hui, il est important d'intensifier la lutte pour dénoncer cette mascarade, empêcher RTE d'avancer et d'exproprier les paysans. Nous appelons toutes les composantes de la lutte à venir nous rejoindre durant tout le mois de novembre, parce que nous savons déjà que nous ne voulons pas du transfo. Nous appelons chacun et chacune d'entre vous à venir nous rejoindre lundi et mardi prochains, dès 9h à Saint-Victor, pour signifier aux enquêteurs notre refus du projet et notre détermination à bloquer RTE par tous les moyens. Paraissent nos arrestes. Et alors, plus précisément, on appelle surtout à une grosse mobilisation le mardi à midi. On se retrouve pour manger ensemble. Le commissaire enquêteur, il vient à 2h. On ne le laissera pas passer. Il faut qu'on soit tous ensemble. Voilà.
Bravo, Nani.
Et pour les gens qui viennent un peu de loin, il y a la mairie qui nous a mis à disposition la salle des fêtes et la cuisine pour pouvoir dormir au village à Saint-Victor. Voilà, si jamais. Nous, on va vous parler parce qu'il y a aussi du coup une grosse manifestation le 2 décembre. Du coup, on va un peu vous expliquer vite fait l'idée. Alors, nous voilà au début de l'enquête publique liée au projet de transformateur de Saint-Victor. Ce lundi 6 novembre, elle sera consultable seulement dans 3 communes, alors que leur réseau découpe l'Europe entière. Si nous vous appelons à venir en masse de partout, le samedi 2 décembre, aux côtés des différentes composantes de la lutte, c'est bien pour dépasser le local, ce mot à la mode dans les bureaux des technocrates, auxquels élus corrompus et RTE voudraient nous confiner. Cela fait maintenant 3 ans que nous préparons à l'arrivée de l'enquête publique. 3 années où nous avons créé des liens forts avec d'autres luttes. 3 années pour renforcer ensemble notre détermination. Aujourd'hui, ce qui nous anime au-delà du refus du transfo, aux lignes THT et aux centaines de projets éoliens, c'est de dénoncer haut et fort cette écologie prônée par un gouvernement et des grands groupes financiers qui prétendent nous gouverner à grands coups de peinture verte, nous faire croire qu'ils veulent tout simplement sauver la planète. Nous sommes solidaires des ailleurs. Nous tenons à dire que nous nous sentons faire partie d'un quelque chose difficile à retranscrire, quelque chose qui se situe dans les tripes, les regards, les rires, les engueulades et les envies, dans des mondes où arrivistes et ingénieurs n'ont tout simplement pas leur place. Nous savons et affirmons que lutter contre le transfo, c'est aussi défendre la forêt à Roibon, que casser un mur à Bure, c'est refuser une autoroute plus au sud, que faire en sorte que là où ils pensaient construire un aéroport sur 1600 hectares, la police n'a plus lieu d'être. C'est donner force et détermination à toutes celles et ceux qui peuplent ces autres mondes et qui n'apparaissent pas sur leur planisphère.
Je vais prendre la suite. Afin de célébrer les 2 ans d'anniversaire de la COP21, mascarade écologique pour nous rassurer où ils se sont permis d'interdire de manifester sous couvert d'état d'urgence, plusieurs événements vont mettre en lien les luttes contre les grands projets inutiles et imposés. Donc ça va commencer à Saint-Victor le 2 décembre. Donc nous serons alors sur la fin de l'enquête publique. Cette journée sera la dernière occasion pour montrer notre détermination avant l'arrivée des bulldozers. Tous ensemble, bloquons l'enquêteur et fêtons l'annulation de l'enquête publique pour cause de projets inutiles. Donc du coup, s'en suivront sur le planning du mois de décembre. Donc le 8 décembre, une journée européenne contre les grands projets inutiles. Le 9 décembre, une manifestation sur le plateau des 1000 vaches dans le Limousin contre l'usine appelée de la CIBV. Le 12 décembre, appel à des actions décentralisées pour l'anniversaire de l'accord de Paris. Et le 16 et 17 décembre, il y aura une fête à la forêt de Roibon. Voilà, donc RTE, remballe ton enquête.
Bon, bonjour, je me présente, je m'appelle Robert Citon. Bon, nous, on lutte contre les éoliennes depuis 2003. On habitait dans une grande ville dans le sud de la France, une des plus belles villes de France, Aix-en-Provence. Et là, on s'est dit, maintenant, c'est invivable, il y a des voitures, des embouteillages, etc. On va venir dans l'Aveyron. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'Aveyron? Le calme, la beauté et des éoliennes. C'était en 2003. Bon. Ça, c'était pour me présenter. Depuis 2009, je m'occupe du transfo. J'ai participé aux premières réunions de concertation. Il y en a eu 3. La première a eu lieu le 2 février 2010, où on nous a présenté le projet. Sauf que cette concertation, c'est, comme a dit tout à l'heure mon épouse, de l'enfumage. Parce qu'on convoque les élus, on convoque les associations, on leur dit, on va vous concerter. On vous concerte sur quoi? Je vous donne en mine, sur l'emplacement du transfo. La décision est déjà prise et on nous donne un os à ronger. Choisissez entre la plaine, les agals, et on va essayer de faire au mieux pour que vous soyez le moins gêné possible. Mais la décision est déjà prise. Et on nous explique que on a pris la décision de faire un transfo, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes d'installation de mégawatts éoliens. Alors, on nous a donné des chiffres, et c'est ça qui est très important. On nous dit qu'en 2011, il y aura 650 mégawatts à installer sur le poste. Et en regardant bien, pour toute la région Occitanie, il n'y a eu que 113 mégawatts installés, alors que nous en promettait 650 pour 2011. Pour 2014, on nous dit qu'il y aura 1300 MW à installer. Et pour la région Occitanie, il n'y en a eu que 235 pour toute la région, alors que RTE nous disait qu'il y aura 1300 MW. Et il nous promettait en 2020 2100 MW. On devait installer 2100 MW. C'est pour ça que le poste était urgent. Et dans les documents que l'on nous avait donnés, il était prévu installation fin 2014. On est en 2017 et on commence à peine l'enquête publique. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur temps, ils ont modifié ce qu'ils appellent le justificatif technico-économique pour justifier la construction du poste, et ils ont trouvé maintenant de nouvelles raisons. Ils disent que les lignes seront saturées à cause des éoliennes. Et pourquoi les lignes seront saturées à cause des éoliennes? Parce que en 2008 déjà, RTE disait à tous les promoteurs qui voulaient poser des éoliennes en Aveyron, mais soyez rassurés, on va vous construire un transfo. Autrement dit, ce sont eux-mêmes qui ont installé le système qui fait que maintenant, les lignes seront saturées et ils veulent construire un transformateur. Ces arguments, ça fait depuis 2009 que je les décline sur toutes les radios, etc. Et personne n'a jamais écouté. L'année dernière, à peu près à la même époque, j'étais avec la municipalité de Saint-Victor au ministère chez Madame Ségolène. On a été reçu par la secrétaire générale adjointe du ministère. Et la première des choses qu'elle nous a dites, elle nous a dit, écoutez, vous êtes là, on va essayer de s'entendre pour faire au mieux. On est monté pour rien. Parce que nous, on comptait développer nos arguments, nous n'avons pas écouté. Et en plus, on était piégés parce que nous étions quatre. Et eux, ils avaient ramené les gens du ministère, les gens des RTE, les gens de la Direction Générale de l'Énergie, c'est-à-dire que nous étions quatre malheureux pecnots de l'Aveyron contre un panel de 15 personnes, que des hauts fonctionnaires. On ne pouvait pas se défendre. Et on est reparti la queue entre les jambes en disant « il y aura un transfo ». Maintenant, la seule façon de lutter contre ça, justement, c'est de ne pas aller à cette réunion publique. Parce que c'est une imposture. Je vais vous donner le dernier exemple de l'imposture. Le commissaire enquêteur va se déplacer quatre fois. Non, cinq fois. Exactement cinq fois. Il va venir deux fois en mairie de Saint-Victor. Une fois en mairie de Saint-Rouen-de-Tarn. Une fois en mairie des Costes-Gozon. Et il va recevoir des personnes une fois à la préfecture de Rodez. Le projet est uniquement situé sur le territoire de Saint-Victor. Sur la commune des Costes-Gozon, ils auront à poser deux nouveaux pylônes pour déplacer une ligne. Et sur la commune de Saint-Rome-de-Tarn, ils vont intervenir simplement pour déplacer une ligne. Autrement dit, 99% du projet sera situé sur la commune de Saint-Victor et il y aura juste deux visites du commissaire enquêteur pendant trois heures. On ne pourra même pas, si on voulait s'exprimer, si on voulait vraiment participer à l'enquête publique, on n'aurait même pas les moyens de poser les questions au commissaire enquêteur. On se fout de nous. Oui. J'en ai terminé, merci.
Non, juste un petit mot pour vous dire, mais vous devez être au courant, qu'il existe dans la région Occitanie un collectif régional qui s'appelle Toutes nos énergies Occitanie Environnement et qui regroupe donc à ce jour 160 associations, 165, voilà. Et qu'au-delà du fait qu'on s'est dit qu'on pouvait représenter une force et que ensemble, on serait peut-être un peu plus entendu. C'est vrai que quand on se déplace, puisque le travail du collectif régional, au-delà évidemment des aides, des soutiens, des relais d'information, et puis on essaie aussi de gérer un peu mieux le relation presse et le fait de sensibiliser les médias à nos combats, on a comme stratégie d'essayer de faire avancer les choses au niveau de toutes les institutions, les structures, alors ça va de l'ADREAL, la région, la préfecture de région, etc., de manière à ce qu'ils réalisent qu'on existe, même si on n'est pas dupe de l'enfumage, comme disait Madame Citon, de l'enfumage, y compris des hauts fonctionnaires, de l'administration, et parlons pas de nos élus. On a entre autres, parce que faisons le point aussi sur la politique de la nouvelle région, on avait demandé, et on a été reçu par le cabinet de Madame Delga donc en mars, et on a appris que la région mettait en place un comité d'experts pour donner les premières feuilles de route, les premières grandes lignes du nouveau schéma régional, puisque évidemment, comme des mailles, il va falloir qu'on se batte contre ce qu'ils vont proposer. Et on avait fait valoir que les citoyens pouvaient être aussi experts, surtout pour ceux qui, depuis 15 ou 20 ans, se battent contre la multiplication anarchique des éoliennes dans cette région. Et puis on nous a dit que finalement, le comité était au complet, que bon, il voyait pas trop ce qu'on pouvait apporter, dans la mesure où on avait, ils avaient, entre autres, comme experts, France Nature Environnement, le syndicat des opérateurs éoliens, etc. Enfin, bon, bref. C'est-à-dire que ce sur quoi on essaie de se battre, c'est la place des citoyens et une vraie démocratie, une vraie concertation. Donc, on continue à les harceler, à demander à être reçus pour faire valoir. Et des fois, on avance, parce que je sais que ici, le parc... bon, vous avez pas de bol, mais bon, nous, on a réussi, par exemple, pour le parc au Languedoc, on leur a dit, mais est-ce qu'il y a une loi qui vous interdit de nous recevoir? Est-ce qu'il y a une loi qui vous interdit de nous entendre? Évidemment que la loi, elle ne dit pas qu'elle interdit une direction, une présidence de parc de nous recevoir. Et fort de cet argument-là, eh bien, avec le parc au Languedoc, au moins, on assiste aux commissions, on est auditionné et on assiste aux commissions qui discutent des projets, puisque les parcs doivent donner un avis favorable ou défavorable. Donc, on peut gagner à un moment donné, mais c'est très, très, très difficile. Et j'ai lu dans un journal, un grand quotidien régional, l'interview de deux opérateurs sur les problématiques d'énergie renouvelable. Et ce qui m'a plombé le moral, c'est qu'à un moment donné, il y en a un qui résume, en félicitant Madame Delga, qui résume en gros son projet de transition énergétique. C'est-à-dire, tenez-vous bien, dans les villes où on consomme, on va inciter aux économies d'énergie. Et dans les campagnes, parce qu'il y a des ploucs et qu'il n'y a rien, on va produire l'énergie. Voilà. Donc c'est ça la stratégie fondamentale du truc. Et il faut qu'on gueule, hein, et qu'on continue à gueuler. Et je pense qu'à un moment donné, Nicolas avait raison. Je veux dire, il y a des colères qui montent. On multiplie heureusement la sensibilité, y compris des gens. C'est pour ça que les médias, c'est important pour les relais. Parce qu'il faut y compris qu'on convainque les journalistes d'avoir un autre discours que le discours dominant et le discours des opérateurs. Voilà. Mais la colère monte et il faut voir, mais peut-être qu'on finira par faire une grosse manif régionale à Toulouse, quoi. Il faut qu'on aille gueuler sous nos fenêtres. Voilà. Parce que c'est clair, je veux dire, les citoyens, on n'est pas reconnus en tant que tels et ils nous gonflent les oreilles avec la concertation citoyenne. Et merde.
Ouais.
Bravo.
Enfin, Bruno me dit de préciser, ben évidemment, parce qu'on voilà, c'est que aux dernières nouvelles, là, en ce mois de novembre, on doit être reçu par le préfet de région, la préfecture de région et la région, parce qu'on fait le forcing, que quand on dit qu'on est 165 associations, on pèse plus que quand on est les trois pelés du coin, quoi. Voilà. Donc la région ferait l'effort de nous rencontrer. Sincèrement, Bruno, tu vois, voilà.
Alors, en guise de conclusion, je voulais rappeler quelques trucs qui se sont passés depuis la manifestation du 21 janvier à Rodez. Donc, ce mois dernier, en octobre, un camarade passait en procès suite à la manifestation du 21 janvier pour, je cite, « violence aggravée sur agent par jet de feuilles d'origine végétale ». Au-delà des sourires que génère ce chef d'inculpation, il s'agit d'une réelle volonté de répression de la part de l'État qui aura des conséquences pour notre camarade. Si les officiers de l'État ont si peur des feuilles qui tombent, l'automne risque d'être éprouvant pour eux. Mais nous n'en avons pas peur. Nous aimons voir les arbres se transformer, sentir l'odeur de l'humus qui se forme, faire des batailles de feuilles avec les enfants, savoir que la nature continue son cycle, faisant pousser les champignons et tomber les châtaignes. Nous voulons que les feuilles continuent de tomber sur la plaine, que jamais les bétonneurs ne réduisent cette terre à du bitume. Si RTE croit pouvoir transformer ses feuilles d'origine végétale en feuilles d'origine industrielle, comme il s'apprête à le faire via le dossier de l'enquête publique, nous lui opposerons une forte résistance, notamment par des batailles de feuilles dont il se souviendra. Paresse nous arrête. Bataille de feuilles !